Bruit de fond.
Bruit de fond.
Bruit de fond. Manuel Plaza.
Quatrième épisode de Bruit de fond en compagnie de Rodolphe Burger. Aujourd'hui, c'est du blues pour commencer avec James Blood Ulmer qu'on évoquait précédemment et dont on reparle juste après.
Oh, you'd like to be in America.
Voilà, c'était James Blood Ulmer avec Are You Glad To Be In America dans une production de Rodolphe Burger, puisque cet extrait de l'album que vous avez enregistré ensemble il y a de cela quelques temps. Tu as déjà succinctement évoqué cette rencontre avec l'un de tes modèles, si on peut dire. Dis-nous en plus aujourd'hui.
Je ne peux pas dire ça de beaucoup de musiciens, mais je peux dire ça de Blood, que clairement c'était l'idole. Enfin... Non, je ne me convient pas, mais je suis un fan vraiment de cette façon-là de jouer de la guitare, et puis aussi du bonhomme, quoi, que maintenant je connais bien. Et voilà, je l'ai découvert c'était les années 70, et j'ai eu la chance de le voir dans, je pense, le seul concert en France qu'il ait fait avec Ornette Coleman dans le groupe Prime Time. De ce jour-là, je suis devenu un inconditionnel. C'est-à-dire, dès qu'il jouait à 500 km à la ronde, j'allais au concert, je l'ai vu vraiment très souvent. Et c'est quelque chose, c'est une passion qu'on partageait avec tous les membres de Catonoma. Il y a même eu un concert incroyable de Blood à Strasbourg, un 21 juin. Je sais pas quelle idée avait piqué un club de jazz de programmer un concert le 21 juin, donc il n'y avait personne, sauf nous. Donc on a vu Blood, le public c'était Catonoma, et il jouait sur notre matos en plus, c'était un souvenir incroyable. Je dis bien, j'étais fan de sa façon de jouer la guitare plus que de ses disques, même s'il y a des choses magnifiques, mais très souvent c'est un peu mancal la production, où alors il y a un musicien, j'ai envie de dire, pourquoi il a pris un violoniste, et son son, c'est sûr que le fait de pouvoir le rencontrer, enfin, et surtout qu'il accepte de venir jouer sur mes morceaux, parce que notre première rencontre, c'était ça, c'était une carte blanche du Festival Son d'Hiver, qui me disait, bon, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je savais qu'il connaissait Blood, puisqu'il l'avait invité déjà. Il disait, moi, il y a un musicien dont je suis fan, c'est James Blood Ulmer. Oui, on va essayer. On va aller le voir à New York, et j'aurais dit, ne lui dites rien de spécial, vous lui donnez simplement l'album Météor Show, qui n'est pas du tout mon album le plus guitaristique, vraiment pas. Par contre, c'est un album, je pensais sans arrêt en le faisant, je me disais, qu'est-ce que ça donnerait Blood de plonger dans ce contexte-là, bon, de son. Et j'ai pas eu de nouvelles pendant des mois, et un beau jour, on m'appelle, je me rappelle, c'était avant Noël, c'est une sorte de cadeau de Noël, quoi, ce coup de fil, à l'île de Bar, en Bretagne, les gens de Son d'Hiver m'appellent, me disent, bon, on a vu Blood, il est ok, il faut l'appeler demain, à 20h, bon, mais là, j'appelle Blood, et j'ai quelqu'un au téléphone, il parle comme ça,
I can't wait, I dig your shit, I dig that shit, I dig that music, man, alors, bon.
Je dis, c'est pas possible, est-ce qu'il est perché, foncé, enfin, que sais-je. Et j'étais tout d'un coup, mais complètement sidéré. Et voilà, quelques semaines après, on s'est vu à Paris, il est venu pour répéter. Et voilà, on s'est rencontré à l'hôtel, un hôtel à Bastille, il me prend dans ses bras comme ça, et là je comprends que c'est pour de vrai que... qu'il a écouté, ce qui est une grande chance, parce que normalement il écoute rien, il s'intéresse pas du tout à la musique des autres, il dit « I play my music ». Donc là ça a vraiment été une chance, et il est arrivé, et on a répété, et il s'est mis à jouer sur mes morceaux qu'il connaissait, et là, alors là, je vous décris pas la sensation que ça a été. Et puis voilà, on a fait un concert, ensuite un album, qui a été le premier album, je peux dire, produit sur mon label Dernière Bande. Donc très rapidement, en 4 jours, l'album qui s'appelait Blood and Burger, ça l'amusait beaucoup, il voulait qu'on fasse une pochette, une photo dans un McDo, avec des hamburgers sanguinolents et du ketchup, Blood and Burger. Ça lui plaisait beaucoup. Et bon, donc c'est très simple, il y a 5 morceaux de lui, 5 morceaux de moi, joués ensemble, avec une section rythmique de Petit Blanc, quand même. Et là, ça, c'était intéressant pour la question de la musique noire, quoi. C'est-à-dire que il jouait avec des sections, des batteurs fabuleux, des bassistes extraordinaires, Jamal Adin Takuma ou Amin Ali, enfin, qui sont des bassistes incroyables, en particulier de funk essentiellement. Mais sauf que pour moi, il y a Blood a un côté rock, mais vraiment qui n'était jamais, à mon sens, bien servi dans les albums. Curieusement, les Blacks, quand ils font du rock, tout de suite, ça tourne un peu fusion, ça tourne un peu... Et il fallait des petits blancs. Voilà, Blood m'a dit ça, il est « You put me into rock ». Donc, il était content. Et ça a été, voilà, une rencontre magnifique.
Et en tout cas, sur le titre qu'on a écouté, bah évidemment, il y a sa composition, mais il y a aussi le son dont on parlait, très reconnaissable, et ouais, un traitement de son assez audacieux et osé, y compris sur la voix.
Oui, la voix, il y a un vibrato drastique sur la voix. Ouais. Il l'a naturellement, mais on en a rajouté.
Est-ce qu'il y a d'autres héros comme ça, avec qui, enfin, que tu aurais souhaité approcher? Je pense évidemment à Lou Reed, puisqu'il est forcément question de lui ces temps-ci avec.
Oui, mais alors, curieusement, Lou Reed, j'ai pas du tout envie de l'approcher, si tu veux. Je sais pas si c'est un héros, Lou Reed. Évidemment, enfin, influence énorme, importance énorme, mais quand même, le personnage fait un peu. N'a pas super envie de le rencontrer, enfin c'est pas quelqu'un de facile quoi, ça on le sait. Et bien sûr il y a énormément de musiciens que j'admire et que je serais heureux de rencontrer, mais vraiment je peux te dire quoi que celui avec qui je rêvais de faire quelque chose c'était Blood, et donc ce rêve là est exaucé. Après voilà, j'adorerais jouer avec qui je pourrais citer Brian Eno, pourquoi pas. Il y a aussi des musiciens voilà que là, par exemple, j'ai fait un album récemment avec Ben Sidran. C'est pas quelqu'un dont je peux dire que je suis fan, parce que ses disques, très souvent, là, c'est un jazz un peu clean, à mon goût. Et en même temps, on a fait un disque d'hommage à Dylan ensemble. J'ai rencontré un homme magnifique, un super musicien et chanteur, et aussi une sorte de personnage qui incarne tout un pan de la culture musicale américaine. C'est pas seulement musicien, c'est quelqu'un qui a fait des entretiens très très connus, très, très, très célèbres à juste titre, parce qu'avec des grands jazzmen, parce que le musicien lui-même, il arrivait à les faire parler. Les entretiens avec Miles sont magnifiques. Donc c'était formidable de passer 4 jours avec cet homme en studio, là dans les Vosges, et de l'entendre raconter ses magnifiques histoires, nous parler de Miles, nous expliquer que Miles, contrairement à ce qu'on dit, était un ange, même si voilà, il pouvait à certains moments apparaître odieux, capricieux, je ne sais quoi, mais qu'il suffisait de... Voilà, ce que j'aime souvent, cette surprise, j'ai rencontré récemment Tricky. On se fait une image des musiciens bon, tricky, on se dit, oh là là, il doit être torturé, il doit être sombre et flippé, il doit pas décrocher un mot, ça doit être très dur de parler avec lui. Et voilà, Tricky voulait me rencontrer, va savoir pourquoi, on se rencontre, et, comme avec Blood, voilà, il te prend dans ses bras, et puis là, tout de suite, on a quelqu'un qui est incroyable de vivacité, c'est le contraire de ce qu'on pense. J'aime ça. Moi, j'aime bien les musiciens.
Tu viens de citer Dylan. Quelle place occupent des gens comme Dylan, comme Cohen dans ton panthéon personnel?
C'est pas des gens que j'ai énormément écoutés, en fait. En tout cas, quand mes premières empreintes musicales, c'était pas trop ni Dylan ni Cohen, c'était plutôt... je sais pas, c'était les Stones, Aftermath, Hendrix, premier Floyd, la musique noire, Ray Charles aussi, etc. Otis Redding. Donc Dylan, c'est plus ambivalent, je dirais. Voilà, il y a des périodes, sublimes, et puis il y a aussi des choses. C'est évidemment un cas, quoi. C'est un mystère aussi. Et c'était très intéressant de revisiter Dylan avec Ben Sidran, parce que lui amenait une diction absolument parfaite. Donc tout d'un coup, on entend les textes. C'est intéressant, il faudrait poser la question à Lou Reed, le rapport à Dylan, parce qu'il a toujours dit oui, Dylan... Il devait être jaloux, alors il disait oui, c'était pas ses textes, c'était nébuleux, ça voulait rien dire. Mais c'est tellement évident, quoi. En même temps qu'il y a, y a, y a... Enfin, c'est les deux grands, quand même, c'est les deux grandes voix. Il y a cette chose qui est entre le chanter, le récitatif, cette manière de faire sonner la langue. Je dirais quand même que c'est Dylan et Lauride. Et pour parler de Cohen, on sait très bien, alors Cohen, l'importance qu'a eu le Velvet pour lui. Et c'était mes copines qui écoutaient Cohen beaucoup.
Et toi, tu te sentirais peut-être plus proche d'un Neil Young, par exemple ?
Alors là, Neil Young, c'est un peu une rencontre ratée, voilà, je dois dire. Là, c'est quelqu'un que j'adore. Mais, alors, j'ai accepté pour la première fois de ma vie de faire une première partie. C'était pour, avant Neil Young. C'était un concert à Colmar. Et on m'a fait un cinéma pas possible, parce que Neil Young, il travaille avec Live Nation. Le nouveau monstre du music business.
Le diable.
La World Company. Et donc voilà, on reçoit un coup de fil, genre comme si tu avais gagné la Starac, vous avez été sélectionné parmi. Tu vois, vous avez l'immense honneur de pouvoir ouvrir pour Monsieur Neil Young. Et alors évidemment, on ne refuse pas. Sauf qu'on se retrouve à jouer une demi-heure. Avant quelqu'un qu'on ne rencontre pas, on peut même pas lui serrer la main. Il est entouré d'une espèce d'armée, le GIs, qui sécurise le secteur. On se croirait en Irak tout d'un coup. C'est un peu terrifiant. Et donc ça m'a gâché le plaisir du concert, carrément. C'est-à-dire ce côté tout d'un coup baba cool avec son copain qui fait la peinture sur scène, lui qui vient, ça c'était magnifique avec tout son matos. Il se trimballe avec son studio en fait. Donc j'ai fait de l'espionnage, je suis allé voir les amplis préhistoriques, quoi. Il a ce son magnifique, et il a, je sais pourquoi maintenant, comment. Donc ça, ok, mais le concert tout d'un coup, je me suis dit, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Alors il sait même pas où il joue, deux minutes après, il est dans son avion. Ça m'a un peu déçu, quand même.
Bien, bien. Donc, pas de collaboration avec Neil Young. En revanche, il y en a eu une avec Mathilde Monnier que l'on connaît bien ici. Et c'est avec le fruit de cette collaboration que l'on va se quitter aujourd'hui. Il s'agit d'une musique que tu as composée pour l'une de ses dernières créations, Pavlova.
Oui, j'avais envie de faire entendre ce morceau, fait pour Mathilde, que j'aime beaucoup, qui nous a accueillis d'ailleurs. En mois de novembre dernier.
Avec Pierre Alféri.
Avec Pierre Alféri, voilà. Dans le cadre de la résidence A7, il y a eu aussi cette création avec Pierre au centre chorégraphique. Et voilà, Mathilde m'a commandé, on peut dire, une musique. Elle l'a fait pour un spectacle qui s'appelait Pavlova. Elle a passé commande à plusieurs musiciens. Alors, j'étais très intimidé parce que parmi, il y avait quelqu'un que j'admire beaucoup qui est Heiner Goebbels, par exemple. Et elle m'a orienté sur un texte de John Giorno, Demons in the Details, qui est très beau, qui est un espèce de texte sur la mort de Burroughs. Et alors, la chose curieuse, c'est que je lui ai enregistré une maquette, juste pour savoir si ça pouvait lui aller. J'avais jamais travaillé en plus pour la danse. Et j'avais bien compris aussi qu'elle ne me demandait pas de faire une musique spécialement pour dansable, si ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est une musique dansable? Donc j'étais un peu dans le brouillard. Donc j'ai envoyé une maquette comme ça, très rudimentaire, enregistrée la nuit dans le studio avec une acoustique. Et elle m'a dit oui, c'est ça, c'est la bonne direction, ça nous plaît beaucoup. Et on... Donc après, je l'ai fait pour de vrai. Et en réenregistrant, en faisant très attention aussi à la prononciation du texte, parce que dans la maquette, j'avais fait des grosses erreurs de prononciation. Et puis évidemment, elle a gardé la maquette. Bon. Donc, je m'excuse par avance auprès des anglophones. Il y a une ou deux grosses bourdes, je vous dis pas où. Mais par contre, ça m'a énormément touché. J'ai vu le spectacle au Théâtre de la Ville. Et donc, ça fait la clôture du spectacle. Et je me demandais d'ailleurs, pendant la musique d'Heiner Goebbels enregistrée avec l'ensemble moderne, avec un son magnifique. Ça va donner quoi tout d'un coup, ma maquette? Et cette chose tout d'un coup très intime, projetée dans un grand espace du Théâtre de la Ville. Et donc c'était très, très émouvant. Ouais.
On écoute ça, une chanson pleine de danse, justement. Il en est beaucoup question dans le texte. Et de squelettes aussi. Merci, à demain pour la dernière de cette série d'émissions. Once upon a time,
these friends loved each other very much, and they made a vow to stay together until they all attained enlightenment, and lifetime after lifetime, in endless rebirths and doing practice, they all realized the absolute empty true nature of mind. They were so happy and overjoyed, they started dancing and dancing and danced and danced. They were so happy in their shocked recognition of emptiness and compassion. They kept on dancing, dancing, and dancing, and they danced away all their flesh and skin until there was nothing left but their bones, and they kept dancing in their bones, dancing. Skeletons dancing. Skeletons. Mm-hmm.